Vous écoutez Tous Transforment, le podcast qui parle de la transformation des entreprises. Ça ne fait pas tout à fait 2 ans que ChatGPT a été ouvert au grand public. Pourtant, on a déjà l'impression que les IA, et notamment les IA génératives, font partie de notre quotidien. Enfin, pas tout à fait. Selon un baromètre IFOP pour talent d'avril 2024, seuls 22% des 35 ans et plus les utilisent. Et 79% se sentent inquiets. En parallèle, pas une semaine ne se passe sans annonce spectaculaire des gens de la tech. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à nous promettre une super intelligence pour très bientôt, dotée de capacités cognitives d'un être humain. Pour faire le point, je profite d'une visite à Malmö en Suède pour en parler avec David Renaudy, lead data scientist à Massive, l'un des studios d'Ubisoft. Ça fait 25 ans que David et moi sommes amis, et de mémoire, ça fait 25 ans qu'il me parle d'IA. Il me semblait donc être la bonne personne pour échanger sur le sujet avec une vision scientifique et honnête, loin de la hype et de l'agitation. Salut David, ça va ?
Salut JS, ça va très bien et toi ?
Ben oui, ça va bien. Je suis content qu'on soit ici dans les locaux de Massif qui sont massifs, impressionnants. On sent la culture jeux vidéo et ça donne envie de venir bosser ici s'il faisait pas trop froid l'hiver.
Oui, d'ailleurs, ici, c'est un critère de recrutement. Il faut avoir un baromètre de 6 sur 10 en nerdy, tu vois. Voilà. Et parce qu'il faut le vivre.
Il faut l'embrasser. Il y a des consoles tous les 10 mètres pour pouvoir jouer à la pause alors que tu travailles déjà sur des jeux vidéo.
C'est ça.
Aujourd'hui, on va pas parler de jeux vidéo. On va parler réellement d'IA. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement ton parcours, parce que tu as bossé, toi, sur ces sujets depuis très longtemps. Et l'idée, c'est aussi de s'arrêter un petit peu sur les craintes qui existent aujourd'hui, d'avoir ta vision pour comprendre de quoi on parle exactement quand on parle notamment des IA génératives, du boom qu'il y a aujourd'hui, et quelles sont les vraies raisons d'avoir éventuellement peur et quelles sont celles qui sont un peu fake. Je te propose qu'on commence par parler de ton parcours, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens, de manière à ce que derrière, ça nous donne aussi un contexte et qu'on comprenne pourquoi tu es légitime à parler de ce sujet.
Eh bien, écoute, moi, je viens de l'ingénierie en informatique. Donc, à la base, j'ai fait une école, école d'ingé. Je suis allé à l'ENSIMAG à Grenoble. Très, très bonne école. Je suis très content. Et pendant ma scolarité à l'ENSIMAG, j'étais toujours très intéressé par ces questions de comment les machines peuvent faire des choses qui sont de plus en plus incroyables. Et j'ai embrassé la possibilité de faire des stages à l'étranger, de faire un parcours plutôt orienté recherche. Et ça m'a amené vers la possibilité de faire un doctorat. Et donc, j'ai passé une thèse dans les années 2000 dans une discipline qui ne s'appelait pas encore la data science, puisque le terme n'avait pas encore été trouvé et généralisé. Mais à l'époque, c'était déjà une thèse en machine learning, puisque ça, par contre, le machine learning, ça fait longtemps qu'on en fait.
C'était 99, 2000.
Ouais, je commençais 2000. En 2000, ouais, 2000, c'est ça.
C'est ça, ouais.
2000, et donc j'ai passé un doctorat dans lequel j'explorais déjà des algos de machine learning qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais déjà avec l'ambition d'analyser des données provenant d'utilisateurs réels. Mmh. Et d'en construire des profils pour pouvoir adresser au mieux leurs besoins. Donc, on était déjà dans des thématiques qu'on va retrouver tout au long des années et des décennies qui ont suivi.
Ok. Et par la suite, qu'est-ce que tu as fait ?
Alors, par la suite, j'ai rejoint l'industrie parce que j'avais envie d'une expérience hands-on, voilà, vraiment très 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 concrète, très appliquée pour voir comment en entreprise les choses fonctionnent. J'ai pas pu tout de suite faire du machine learning de l'IA en entreprise. J'ai occupé d'autres postes. Je vais passer un petit peu vite. C'est peut-être pas forcément le sujet pour maintenant, mais en tout cas, ça m'a appris les process en industrie. J'ai vu comment on mène des projets, comment on délivre des choses à des clients, des choses qu'on ne voit pas forcément quand on fait de la recherche en laboratoire. Mais j'ai pu quand même, à un moment donné, rejoindre mes premières amours. Donc, dès que j'ai pu avoir un job de data scientist dans cette compagnie, je l'ai fait et la boucle était bouclée. J'ai pu faire de l'IA avec les moyens modernes. Donc, c'était passé 15 ans quand même entre les deux. Et revenir à ces sujets-là. Et j'ai fait ça pendant quelques années dans cette société, et ensuite j'ai pu changer et venir à Massive, donc un studio d'Ubisoft, où j'applique toutes ces méthodes d'IA, de machine learning, aux jeux vidéo, à l'industrie du jeu vidéo.
On voit que début des années 2000, tu commençais à travailler sur le machine learning. Pourtant, à l'époque, on n'entendait pas parler forcément d'IA au niveau des entreprises, du grand public, et on sait que milieu des années 2010, vers 2015, notamment avec AlphaGo, il y a eu une petite hype autour de l'IA, puis c'est retombé aussi sec. Mais là, depuis 3 ans, ça s'enflamme. Alors, Qu'est-ce qui nous amène à ça? Comment ça se fait que d'un coup, tout se soit enflammé, qu'on voit de l'IA partout, même dans des grippins? Qu'est-ce qui a amené à ça?
Je vais me méfier du grippin où il y a une IA, quand même.
C'est réel. Ça a été montré au CES à Las Vegas, un gris pour la viande avec de l'IA dedans. Donc, tu te dis, là, on atteint un certain niveau, quand même. Donc, qu'est-ce qui nous a amené à ça et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je considère qu'on est réellement sur une phase de transition et qu'on a passé un cap au niveau de l'adoption de ces technologies.
Alors, c'est intéressant parce que l'IA, en fait, on sait ce que c'est et on la pratique, même pas au niveau où elle est aujourd'hui. On la pratique, en fait, depuis les années 1950. Donc, je vais faire un petit peu l'historique et je vais faire, un petit peu le prof là, mais
il faudra que je mette un jingle pour le
côté. Ouais, jingle prof, avec une barbe très austère avec un tableau noir
et de la craie. On passera en noir et blanc.
Voilà.
L'audio en noir et blanc.
Voilà. Et ça va être super visuel pour tes auditeurs, c'est parfait.
Exactement.
Non, mais voilà, l'IA, c'est un terme qui a été, la paternité, on la donne communément à Marvin Minsky, qui avait défini l'IA dans les années 50, donc c'est pas quelque chose de nouveau, comme l'implémentation sur ordinateur de tâches qui sont communément admises comme mieux réalisées par les humains que par les machines. Donc c'est une définition extrêmement large qui va comprendre aussi bien jouer aux échecs que marcher peut-être dans la rue, faire une commande de produits. Conduire une voiture, bon voilà, c'était extrêmement large. Et il faut savoir que, à l'époque, et même toutes les années qu'il y a eu après, on a essayé de faire déjà de l'IA. Bon. Alors, je vais pas refaire tout l'historique depuis, mais quand même, il faut savoir que dans les années 2000, ce qui s'est passé, ce qui a été un enabler, je suis désolé pour l'anglicisme, mais un enabler pour la suite, ça a été la convergence entre des moyens computationnels supérieurs, donc on a eu de la puissance de calcul qu'on n'avait pas avant, des moyens de stockage aussi, on a pu avoir des stockages distribués et donc du volume, un volume très très important de données qu'on n'avait pas avant. Donc si on avait ces moyens de stockage, ces moyens de computation et de la donnée,
c'est ça,
aussi
tout ce qu'Internet produit,
tout ce qu'Internet produit et qu'avant on n'avait pas. Donc on s'est retrouvé dans les années 2000 avec d'un coup une masse incroyable de données, des moyens pour faire des tas de calculs et des moyens pour stocker plein de choses un peu partout. Et à la convergence de ces trois-là, en fait, tout ce qui était fait déjà avant, on a pu le faire, mais à l'échelle. Et c'est là qu'on a pu observer des effets supplémentaires très très intéressants. Par exemple, les réseaux de neurones, je pense qu'on va en parler un petit peu parce que ChatGPT, je vais y arriver, ChatGPT, c'est basé quand même sur des réseaux de neurones profonds. Et les réseaux de neurones profonds, avant d'être des réseaux de neurones profonds, c'était des réseaux de neurones tout court.
Si on réexplique ce que sont les réseaux de neurones pour vulgariser un petit peu
Les réseaux de neurones artificiels, alors on oublie toujours le artificiel, parce qu'on parle pas de neurones biologiques, on fait un petit peu le raccourci là, mais les réseaux de neurones artificiels, on prend l'unité de base donc d'un neurone, c'est juste une petite unité de calcul qui est une grosse approximation d'un neurone biologique, qui en fait pas grand-chose à voir, sauf l'idée que quand on va en mettre plein en parallèle et on va faire transiter des signaux entre eux, comme les signaux synaptiques entre les neurones biologiques, eh bien, il va y avoir quelque chose va se passer quand on passe à l'échelle et ces réseaux de neurones artificiels vont être capables d'encoder de la connaissance dans leurs connexions. Et en gros, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit.
Ok, c'est là où il y a un sujet, pour le commun des mortels, où on a l'impression qu'il y a quelque chose de magique autour de ça. On entend parler du fait que même ceux qui créent des IA ne savent pas exactement ce qui se passe, et donc c'est très galvanisé, on galvanise les choses autour de ça. En réalité, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne le maîtrise pas.
Non, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'on ne contrôle pas, on ne connaît pas, et donc un jour, la machine va prendre le contrôle. Il faut savoir que derrière ces mécanismes qui permettent à ces réseaux de neurones artificiels d'apprendre, et encore apprendre, c'est aussi un raccourci, il y a beaucoup de mathématiques, il y a des tas de... Par exemple, il y a un algorithme qui s'appelle la backpropagation. C'est ce qui permet aux réseaux de neurones d'apprendre, d'enregistrer de la donnée, de la connaissance. Bon, c'est des maths, c'est une formule avec des dérivées partielles, puis on l'implémente sur des machines et on fait des calculs. Donc ça reste du calcul. C'est d'ailleurs le machine learning au début s'appelait du statistical learning, donc c'est de l'apprentissage statistique. Okay. C'était une méthode de faire parcourir des données à un algorithme statistique et d'avoir en résultat quelque chose qu'on appelle un modèle qu'on peut réutiliser ensuite. Mais donc, c'est pas du tout de la magie. Mais je voulais revenir à ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais de cette période, année 2000, où d'un coup, il y a eu une explosion. Il faut voir que, en fait, pour ça, je suis parti sur les réseaux de neurones, c'est que les réseaux de neurones, ça existait aussi depuis les années 60. On avait conçu le perceptron multicouche, du moins dans la théorie. Donc, toutes les briques de base étaient déjà là. La backpropagation, qui est l'enabler, justement, pour ces réseaux de neurones, était déjà là. Ce qui nous manquait, c'était les données, la puissance de calcul, le stockage, et donc avoir des milliards et des milliards de ces neurones qui vont pouvoir faire des tas de choses. Donc, c'est là qu'il s'est passé quelque chose, mais il y a aussi eu, tu sais, quand tu as dit, il y a eu un premier, une espèce de première explosion dans les années 2010, 2015 avec, 2015 avec donc AlphaGo, donc avec et puis pareil pour les échecs. Mmh. Et bon, quand tu dis que la hype, enfin, que c'est vite retombé, c'est pas tout à fait vrai parce que ces algos-là, qui sont à base d'apprentissage par renforcement, qui est une des méthodes d'apprentissage, pas forcément des réseaux neuronaux. En fait, on n'en a plus parlé. Pourquoi de ces algos? Ben parce que c'était plié. Parce que le problème de faire jouer au Go une machine et battre les meilleurs champions humains, ça a été fait. Et donc, on sait très bien que quelque chose est fait. Ben, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été, à l'époque, un choc.
Alors, qu'est-ce qui fait que fin 2022, on a d'un seul coup OpenAI qui ouvre ChatGPT, que d'un seul coup, tout le monde commence à se ruer dessus, voir ChatGPT. Alors, il y a l'ouverture au grand public, évidemment.
Voilà.
Mais est-ce qu'il y a eu des changements aussi dans la façon dont on a programmé ces IA les algos de machine learning? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, il y a eu une bascule à ce moment-là, alors que ce que tu dis, les algorithmes existaient, c'était plié. Mm-hmm. Alors évidemment, il y avait déjà des produits qui l'intégraient. Moi, sur tous les projets en e-commerce sur lesquels je bosse, évidemment, derrière, il y a énormément de services qui utilisaient déjà des algorithmes basés sur du machine learning, ne serait-ce que pour de la reco-produit. On voit toutes les choses qui font du retargeting sur Internet utiliser ce type d'algorithme. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, là, il y a quand même eu une bascule avec OpenAI fin 2022?
Il y a eu, je dirais, deux déclencheurs, dont le premier, en fait, tu as déjà parlé, c'est l'usage. Donc, OpenAI a eu l'intelligence de concevoir un produit et pas une technologie. Et ChatGPT, c'est un produit qui est extrêmement bien conçu d'un point de vue expérience utilisateur. Ce qui fait que monsieur, madame, tout le monde peut l'utiliser et comprend ce qui se passe. Je rentre des phrases, des mots, et j'ai en retour des phrases, des mots. Ça me parle. Alors que si on reprend l'exemple du jeu de Go ou des échecs, à part les passionnés du domaine, c'est pas très grand public. Donc la première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est d'un point de vue techno, il y a quand même eu, il fallait des briques de base qui ont permis à ces algos de fonctionner et d'avoir des résultats quand même pas dégueu. Aujourd'hui, quand on utilise ChatGPT ou de manière générale des chatbots à base de LLM, donc on va en parler, on a quand même quelque chose qui est de l'ordre du du point de vue utilisateur, je comprends ce qui se passe. Et pour arriver à ce niveau-là de qualité de résultats, même si on va voir les limites, on va en parler aussi, il a fallu que ces fameux modèles de langage aient accès, alors on revient à cette explosion technologique, aient accès à déjà des masses de données énormes, avec un volume de texte, on sait que c'est des plusieurs milliards de textes, de pages de texte. Il fallait aussi les bons algos. Il faut oublier que GPT, ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. Okay. Et Transformer, c'est aussi un film de SF qu'on peut en discuter, ou pas. Mais surtout, les Transformers, c'est une architecture de réseau de neurones. On revient à cela, mais profond, c'est-à-dire vraiment énormément de couches qui s'empilent, qui on s'est aperçu que ça marche extrêmement bien pour traiter des tâches complexes qu'on ne pouvait pas traiter avant. Et ça, c'est 2017. C'est un papier de Google, donc 8 chercheurs de Google qui ont fait Attention is all you need. Et c'est un peu le fondateur des Transformers qui ont permis les GPT, donc les modèles de langage. Et là, on revient à OpenAI qui a eu ce génie de dire, les modèles de langage, c'est bien. Donc, pour ton audience, qu'est-ce que c'est un modèle de langage? C'est un modèle qui va être capable de générer, un modèle génératif, qui va être capable de générer du texte. Ce sont des modèles qu'on appelle autorégressifs, c'est-à-dire qu'à chaque instant, il génère le mot suivant. Je ne vais pas parler de token, ouais. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. On va imaginer que c'est des mots. Il génère le mot suivant à partir de ce qu'il est en train de générer lui-même. Donc, il est sur un mode automatique, donc sur la base de ce qu'il a déjà généré. C'est très bien. On peut faire des tas de trucs déjà avec, mais c'est pas encore un bot. On peut pas parler avec lui. Et donc, ils ont rajouté une couche qu'on appelle le reinforcement learning, donc qui est basée sur le reinforcement learning, based on human feedback, RLHF. Et cette couche-là, c'est la couche géniale qui a permis de contrôler ce que ces LLM génèrent par du feedback humain. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui ont revu des tas de conversations de bots, qui les ont labellisés, bien, pas bien, ça c'est pertinent, ça c'est pas pertinent. Et ce qui a permis à ces LLM de se transformer en chatbot qui pouvait donner, répondre à des questions de manière pas mal, quoi, pas dégueu, même si, on va le voir, c'est pas encore parfait.
Ok, je pense qu'on a bien compris le contexte. Est-ce que tu as des choses à rajouter?
Pourquoi il y a eu cette explosion? On revient à cette explosion 2022.
Pourquoi cette explosion 2022?
Eh bien, parce que d'un coup, donc là, on a ouvert la boîte, on a commencé à regarder tout ce qu'il y avait dedans, très bien, mais du point de vue de monsieur, madame, tout le monde, il y avait d'un coup un outil qui était disponible en ligne, gratuitement, qui permettait d'interagir avec, qui donnait des réponses donc bien supérieures à tout ce qu'on avait eu avant. Et ça, le grand public a pu s'en saisir. Et là, on a vu l'explosion des nombres. Donc, c'est depuis novembre 2022, ChatGPT sur le premier qui est sorti, puis après les nouvelles versions qui s'améliorent à chaque fois. Le grand public s'en est emparé.
Alors, moi, je me souviens d'une conversation qu'on a eue quand j'ai mis les mains la première fois dans ChatGPT. Je t'ai envoyé un message en disant « mais c'est complètement dingue ce truc ». Et toi, tu trouvais ça dingue, mais moins dingue parce que tu connaissais déjà, tu avais déjà touché à ce genre de choses. Mm-hmm. Et donc, le choc que ça a pu être pour la plupart des gens qui ne sont pas data scientists, mm-hmm. finalement, les data scientists, pour vous, c'est « ouais, ok ». Bon, bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est ils l'ont ouvert au grand public, l'UX du truc est bien fait, ça, c'est le reinforcement, c'est bien fait. Mm-hmm. Mais ça, pour vous, ça n'avait pas l'effet d'une bombe.
Non, parce que d'un point de vue technique, tu sais, quand on sait comment quelque chose marche, on est forcément moins impressionné. C'est comme quand tu vas à un spectacle de magie, que toi-même, tu es un petit peu magicien à tes heures perdues. Bon, tu vois quelque chose, c'est impressionnant apparemment, mais tu connais les dessous, tu connais les astuces et tu dis, ok, ce tour il est pas mal, mais c'est pas non plus de la vraie magie. J'ai pas encore vu de cette vraie magie là. Donc pour moi et comme pour beaucoup de gens qui connaissent donc toutes les briques technologiques qui soutiennent ces modèles là, c'est très bien. Donc encore une fois, je veux pas cracher dessus parce que c'est toujours facile après coup de dire oui, c'est pas mal. Ben, quand même, ils l'ont fait. Alors qu'avant, personne l'avait fait avant. Donc faut quand même reconnaître l'achievement. Mais c'est pas non plus. Je suis pas non plus impressionné. Alors je sais pas si c'est le moment où je dis pourquoi je suis pas impressionné ou on garde pour plus tard.
Si on peut en parler.
Ben écoute, moi je pense que c'est pas si impressionnant que ça parce que quand la machine qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se passe quand vous allez sur ChatGPT, vous lui posez une question sur n'importe quel sujet et vous allez avoir une réponse. Donc, comme je disais, c'est basé sur des modèles de langage dont la seule fonction est de générer mot après mot basé sur des probabilités des phrases qui font sens dans le contexte où elle se trouve. Donc, en fait, faire sens, c'est, encore une fois, on va dire, ah oui, mais le sens, c'est humain, etc. Non, c'est juste un critère de vraisemblabilité par rapport aux données sur lesquelles ils ont été entraînés. Donc, tout ce que ces modèles essaient de faire, c'est de générer des phrases qui sont vraisemblables par rapport à ce sur quoi ils ont été entraînés, mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est la vraisemblabilité.
C'est de la probabilité.
C'est de la probabilité, mais la probabilité très très bien faite, qui fait que ça donne une illusion de texte qui est quand même vachement bien qu'un humain aurait pu produire. Mais en fait, derrière, il y a que ces mots qui sont générés l'un après l'autre, mais vraiment l'un après l'autre, systématiquement. Alors que nous, pourquoi je suis pas impressionné? Parce qu'il n'y a pas de pensée derrière, il n'y a pas d'intelligence derrière, il n'y a pas de construction derrière. Nous, humains, quand par exemple tu me poses une question, je génère pas un mot après l'autre en jetant une pièce. Je construis une pensée et après cette pensée est articulée grâce à cet intermédiaire qui est pas mal, qui est le langage, jusqu'à mieux. Peut-être qu'avec Neuralink, on fera autre chose. Mais on a ça et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça n'a rien à voir avec ce que font ces chatbots tous tout aussi impressionnants qu'ils puissent être. Donc, je suis pas impressionné et on le voit bien, et toi aussi, je pense que tu as pu jouer avec toutes ces exemples qui montrent les limites, qui marchent pas.
Tous les jours.
Et on voit que le chatbot dit absolument n'importe quoi. Mais pourquoi il dit n'importe quoi? J'aime pas le terme hallucination, parce que, je sais pas, il hallucine, c'est vraiment, il dit, voilà, je vais pas utiliser des mots. Voilà. Mais voilà, c'est juste qu'en fait, cette machine qui répond n'a aucune idée de ce qu'elle est en train de dire ou de faire.
Ouais,
Elle n'est pas consciente. Il n'y a pas d'intelligence. Donc,
c'est pour ça que le mot intelligence artificielle est très discuté. Oh là là, et oui, je me souviens qu'il y a quelques temps, tu m'avais dit, en fait, pour toi, c'est de l'algorithmie, soit de l'algorithmie très poussée, mais ça reste de l'algorithmie.
Oui.
Donc, c'est de la programmation, pas plus.
C'est ça. Par exemple, un critère aussi, là-dessus, tout le monde peut le voir, c'est le critère du bon sens. C'est-à-dire demander à, je sais pas si vous avez fait l'expérience, peut-être qu'ils l'ont réparé, ils ont réussi à l'intercepter dans les dernières versions, mais je sais que dans les premières versions, j'avais posé la question à ChatGPT, je vais pas la faire en détail, mais un truc genre, sachant qu'il faut à une femme humaine 9 mois pour mettre au monde un enfant, combien de temps faut-il à 9 femmes humaines pour mettre, tu vois, pour donner naissance aussi à un enfant? Et l'algo, sans problème, va te dire, eh ben, c'est pas problème, on parle Élise, et donc ça fait 1 mois, puisque un mois, on a 9 femmes, 9 mois, boum, c'est fini.
Ouais.
Ben voilà, ça te montre bien que l'algo n'a aucune idée de ce qui se passe derrière, il n'a aucun bon sens, parce qu'il n'est pas ancré dans la réalité. Peut-être que ce sera une question à laquelle on viendra tout à l'heure, pour le futur.
Voilà. On va y revenir.
Alors,
on va jouer un jeu, et on va essayer de se prendre les 3 grosses peurs, un top 3 des grosses peurs autour de l'IA, que la plupart des gens ont. Et on va essayer de se dire, bah, est-ce qu'elles sont légitimes? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur? Ou est-ce que, bah, finalement, c'est pas si dramatique que ça? Et je pense qu'en fait, il y a surtout de la nuance à aller chercher. Mm-hmm. Numéro 3, l'IA va tuer la créativité. Donc, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui de génération d'images, de films ou de morceaux de vidéos, moi qui fais beaucoup de musique, le fait qu'il y ait aujourd'hui des plateformes qui font de la musique complètement, c'est terminé, on va plus avoir d'artistes parce que les IA vont tout remplacer.
Mm-hmm.
Alors moi j'ai ma petite idée qui est que en fait ce qu'on va chercher dans l'art, c'est plutôt le feeling de l'artiste, l'émotion, ce qu'il raconte, son background, etc. Et que ça, bah en fait une IA va pas pouvoir le raconter, même si ce qu'elle produit est parfait techniquement.
Mm-hmm.
On a besoin nous humains d'avoir une histoire, mais j'aimerais bien avoir ton feedback là-dessus.
Alors, mon feedback là-dessus, il est très clair, c'est que non, la machine et l'IA, tout aussi puissante qu'elle puisse être aujourd'hui, ne va pas tuer la créativité humaine. Pourquoi? Eh bien, parce que, encore une fois, on revient à la manière dont ces machines fonctionnent pour générer, par exemple, des images, mais ça s'applique aussi à tous les autres types de médias dont tu as parlé, hein, l'audio, même la 3D, ce que tu veux. Ce sont des algorithmes qui font une espèce de moyenne de toutes les images, de tous les médias sur lesquels ils ont été entraînés, et qui vont se servir de ces patterns qui ont été détectés dans les données sur lesquelles ils ont été entraînés pour, encore une fois, générer quelque chose qui est vraisemblable dans le contexte du prompt qui a été fait. Ça génère des choses fantastiques, très belles, etc. Mais est-ce qu'il y a un processus créatif derrière? Non. Est-ce qu'il y a une pensée construite derrière? Non. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce qu'il y a une forme d'humanité derrière? Alors, on peut dire que l'humanité était dans le support qui a servi à l'entraînement. Mais de la même manière qu'un artiste aujourd'hui s'inspire des œuvres de ses contemporains et de tous les artistes passés dans son art, l'artiste s'en imprègne et bien sûr qu'il utilise tout ce qui a été fait jusqu'à présent pour générer, pour produire son propre art. La machine ne fait pas ça. Donc, comme je l'ai expliqué, elle ne fait pas du tout ça. Donc, est-ce qu'il est possible que la machine tue la créativité? Mais absolument pas. Et d'ailleurs, on le voit souvent quand on demande à des artistes, hein, des professionnels. Ici, il y en a plein à Massive. J'ai la chance d'être entouré par des artistes brillants. Et eux aussi sont pas impressionnés dans le sens où ils vont dire « Ouais, bon, c'est là, l'image qui m'a sorti, il y a ça et ça et ça qui va pas. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais fait, etc. » C'est pas une démarche artistique. Donc, c'est bien pour peut-être faire un petit peu d'idéation. Je sais pas si c'est très, très français. C'est bien pour aller chercher des choses, peut-être pour automatiser certaines tâches un petit peu rébarbatives, répétitives, que parfois il faut faire dans l'industrie. Mais alors, est-ce que ça va tuer la créativité? Je crois pas. Le jour où on aura une machine pensante, etc., enfin, qui est sur le même mode de fonctionnement que l'humain, on en reparlera. Ouais. Mais c'est pas aujourd'hui.
Alors, j'ai une anecdote à ce sujet aussi sur la façon dont on ressent la créativité. Il y a eu un concours très récemment qui a été fait autour de la génération d'images faites par les IA. C'est-à-dire que c'était la plus belle image générée par IA. Donc, chacun a amené son image générée par IA. Mmh. Et il y a un gars qui gagne avec une image super belle, etc. Donc, on lui remet son prix. Au moment où on lui remet son prix, il dit, mais en fait, c'est une vraie photo que j'ai prise. C'est-à-dire, il était photographe et il a pas du tout généré l'image avec l'IA. Donc, on lui a enlevé son prix. Ceci dit, d'un seul coup, tout le monde s'est intéressé à son image en se demandant comment il l'avait fait, quelle technique il avait pris, quelle était sa démarche, etc. Mmh. Alors que, on s'était pas du tout posé cette question sur la génération du prompt autour d'une IA. Oui. Et on revient sur, en fait, ce qui est intéressant dans la création, c'est pas seulement le résultat, même si le résultat peut être ultra intéressant, mais on a besoin, nous humains, de savoir ce qui s'est passé avant. Alors, ça va peut-être tuer les mauvais créatifs ou ceux qui font que copier sans avoir réellement une
alerte provoque.
Voilà. C'est un peu ça.
Oui.
Mais ceux qui sont alors, vraiment artistes et qui ont vraiment une démarche artistique ont pas trop de soucis à se faire.
C'est comme là, je vais citer un grand maître pour moi, donc et pour nous d'ailleurs, Alexandre Astier, hein, qui quand on lui avait posé la question sur est-ce que l'IA va tuer la créativité, enfin va tuer le travail, il avait dit s'il le fait, c'est que vous faites pas un très bon boulot, quoi. Voilà. C'est aussi un peu provoque. Je sais que ça peut faire peut-être hurler des gens qui vont dire « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» etc. La vérité est que effectivement, les IA qui génèrent de l'art, des supports médias comme ça, ne sont pas capables de faire des choses d'une extrême qualité. En tout cas, je sais que c'est pas des choses qui sont prêtes à être utilisées, intégrées directement en prod. Donc, à partir de là, effectivement, si c'est le cas pour certaines images, certains assets, on va dire, c'est que c'est pas des assets de grande qualité. On revient un petit peu sur cette question de qualité.
Oui, alors après, voilà, ça va peut-être tuer les banques d'images qu'on utilise aujourd'hui pour mettre dans des présentations, dans des posts sur Internet, mais voilà. De toute façon, c'était pas des assets de très grande qualité. OK. Numéro 2. Attention, on attaque le lourd. Je vais perdre mon job et être remplacé par une IA.
Eh ben, un petit peu la même réponse.
Si t'es mauvais, tu vas être remplacé par une IA.
Non, c'est pas si t'es mauvais. C'est pas une question de bien travailler ou pas. C'est la question, c'est si tu fais une tâche qui est aisément remplaçable, mais pour la totalité du travail. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a plein de temps sur des tâches qui sont totalement automatisables, c'est que effectivement tu fais pas forcément des tâches qui requièrent énormément de cette fameuse créativité, spécificité humaine dont on parle. Alors il y a des jobs comme ça, qu'ils soient menacés, on peut le comprendre, mais ça c'est quelque chose qui n'est ni spécifique à notre période, ni spécifique à l'IA.
Non, ça a toujours
été le cas. Ouais. Charlie Chaplin, les temps modernes. Souvenez-vous, est-ce qu'il était bon de remplacer cet ouvrier qui faisait le même mouvement 8 heures par jour à la chaîne, sur une chaîne de montage? Peut-être que oui, peut-être que non, il a perdu son job. Bon, je sais pas. Ça pose d'autres questions qui sont on peut en parler.
C'est question sociétale,
mais... Si on revient juste là maintenant à la question de l'IA, maintenant de ces outils d'IA dont on parle et de la peur qui est, je pense, qui est légitime. Je peux comprendre cette peur de gens. Je vais perdre mon boulot. Moi, je pense que, et c'est un petit peu la réponse que je donne quand on me demande est-ce que je vais perdre mon job ou pas. Je pense que il y aura effectivement deux entre guillemets grandes catégories de salariés ou de candidats à l'embauche ou voilà bientôt. C'est il y a ceux qui sauront utiliser ces outils et ceux qui ne sauront pas le faire, soit par principe, soit par manque d'envie ou soit par toutes les raisons imaginables. Mais ce qui est sûr, c'est que le critère de tri se fera là-dessus parce que ça se verra vite en termes de productivité, de savoir utiliser les nouvelles technologies et tout. Et là encore, c'est pas nouveau. Les gens qui se forment aux nouveaux outils sont des gens qu'on va plus facilement embaucher.
La vraie question, c'est de ça dont moi je parle souvent, c'est quelle est votre valeur en tant qu'être humain? Où est votre expertise? Où est vraiment le côté l'intelligence justement humaine? Et à la limite, s'il y a des tâches rébarbatives que vous pouvez faire remplacer par une IA, mais tant mieux, parce que c'est pas là où vous avez de la valeur. Sauf que, effectivement, ça pose des questions de qui est où, quel type de travail on va avoir, et des personnes qui vont potentiellement pas être sur des métiers où ils vont pouvoir accéder à d'autres choses. Donc, c'est complexe, c'est une question complexe, mais tout, toutes les personnes qui se disent j'ai vraiment peur que mon métier soit remplacé, mm-hmm. c'est faux. C'est-à-dire, mettez les mains dans l'IA, apprenez à l'utiliser, mm-hmm. et potentiellement, en fait, ça va devenir plus un allié mm-hmm. qu'une contrainte.
Je reviens à ce bon sens où être capable de voir ses résultats, de savoir comment faire marcher ses IA, etc. Donc, il y a toujours besoin d'humains dans la boucle, quoi. Et tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
OK. Top 1. Attention.
Je suis prêt là.
Je crois que je vais mettre une musique profonde. Ouais. Les IA vont devenir plus intelligentes que l'humain et vont prendre le contrôle de la planète.
Est-ce que tu peux mettre une musique du style Qui veut gagner des millions avant
ouais,
ça, tu sais, avec
ça,
un peu de suspense et tu fais une pause.
Ouais. Il faudrait que ça commence in a world.
Voilà.
Des choses comme ça. Donc les IA vont devenir plus intelligentes que l'humain et vont prendre le contrôle de la planète. Donc on parle des AGI, donc des super intelligences.
La singularité. Skynet.
Sam Altman qui arrête pas de nous annoncer justement les GI pour demain chez OpenAI. Mmh. Là où on va avoir un Yann LeCun. Donc pour rappel, Sam Altman c'est le patron d'OpenAI et Yann LeCun c'est le head of
AI de Meta. Mmh.
Qui au contraire lui dit de toute façon c'est pas les LLM, donc les LLM large language model c'est ce qui est utilisé aujourd'hui pour faire tourner la Gen AI, donc l'IA générative. Yann LeCun lui dit c'est pas ces technos là qui amèneront les GI et on en est encore très loin. Donc il y a des annonces très marketées là-dessus. Quelle est ta vision d'expert donc sur le sujet avec toutes les années que tu as derrière de travail sur le sujet de l'IA sur cette arrivée de l'AGI, en gardant à l'esprit, est-ce que tu as vraiment toutes les infos et tu es capable de répondre correctement à cette question?
Alors, je ne suis pas dans la tête de Sam Altman ni de Yann LeCun. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que alors, tu m'as dit, la super intelligence va émerger, etc. Voilà, une machine plus intelligente que l'homme. Je renvoie une question, et c'est une question que je pose à tous nos auditeurs là. Qu'est-ce que l'intelligence? Comment on définit l'intelligence? À partir de quel moment on va pouvoir être sûr qu'on a un quelque chose, une entité en face de nous qui est plus intelligente que nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire capable de résoudre un problème de maths? Ça veut dire être capable de répondre à une question sur comment cuisiner tel plat? Est-ce que c'est...
Alors, je mets une définition.
Tu vois?
Capable de s'adapter. Une seule IA. Modèle capable de s'adapter à n'importe quelle situation. Donc, de comprendre un contexte qui soit... potentiellement un contexte logique, mais aussi de comprendre un contexte physique, quel que soit ce contexte, et de prendre des décisions qui sont de meilleurs, qui donnent de meilleurs résultats qu'un être humain.
Mais même les humains ne sont pas capables de faire ça. Donc en fait,
oui, mais justement.
C'est pourquoi j'allais dans cette question un peu provoque, c'est que les chercheurs se battent depuis des dizaines d'années pour essayer de définir l'intelligence. Donc on va avoir du mal là dans ce podcast là à définir cette intelligence et donc cette super intelligence.
Je pense qu'on a 10 minutes, on est bon. Hein.
12, on y va en 10,
12.
Au-delà de ça, déjà il faudrait définir à partir de voilà, qu'est-ce qu'on veut là. Tu m'as donné quelque chose sur lequel on peut partir. Je pense que tous on a une idée un peu générale, je reviens à ça de ce que c'est, ce que serait ce super être qui serait plus intelligent que nous. Et ça va au-delà de l'adaptabilité, c'est l'autonomie, c'est la question Enfin, c'est très très large. J'ai beaucoup de difficultés à résumer.
Enfin, ce dont les gens ont peur, c'est d'avoir une machine, et sans parler forcément d'intelligence ou d'adaptabilité, mais une machine qui, à un moment, sorte du contrôle de l'être humain et soit en capacité, par exemple, de prendre le contrôle d'infrastructures, de centrales nucléaires, de choses comme ça. C'est ça dont ils ont peur. C'est une machine qui potentiellement s'auto-réplique et soit en capacité de prendre le contrôle d'infrastructures sensibles.
Je pense qu'il y a énormément de fantasmes là-dedans. Ouais. On a été bercé par Terminator.
Exactement.
Et d'autres films de SF et on est dans le domaine du fantasme. Je vais dire ça pourquoi? Parce que l'IA aujourd'hui est avec tous les guillemets, tu sais que je suis pas un grand fan de ce terme-là, même si on est obligé de l'utiliser parce que c'est le terme que tout le monde comprend. Mais l'IA aujourd'hui n'est ni intelligente, elle est artificielle également, mais c'est pas de l'intelligence, ce sont des outils qui permettent de résoudre un problème donné, donc très très étroit, d'accord. Et ces problèmes-là, pour pouvoir les résoudre, nous humains donnons l'objectif à la machine pour qu'elle atteigne le niveau de performance qu'on estime être bon pour réaliser cette tâche-là. L'intelligence générale dont on parle, c'est l'espèce de chose un peu nébuleuse qui serait capable de tout faire, mais mais sans avoir de vrai objectif. Donc, mais on est quand même nous les humains qui programmons ces choses-là. On est quand même là pour coder. Et donc, si on, tu vois, là, je reviens vraiment à l'ingénieur, on cherche comment, qu'est-ce qu'on va mettre comme fonction objectif à ce truc-là pour que ça, d'un coup, ça sorte des gonds et ça se mette à se multiplier et à d'un coup prendre le contrôle du monde.
Ce que tu veux dire, c'est que autant nous les êtres humains, en fait, on fait une projection de nous en tant qu'êtres humains qui avons des objectifs, et quand on voit les plus grands tyrans avaient toujours des objectifs de pouvoir, etc. Ce que tu es en train de dire, c'est que la machine, en fait, ses objectifs, c'est l'être humain qui lui donne. Donc, si on lui donne pas, elle va pas ça va pas émerger naturellement.
Alors, en tout cas, pas avec ce qu'on a aujourd'hui, parce que pour arriver à ce que des objectifs et de la conscience émergent, ben, il faut arriver à faire ça. Il faudrait arriver à faire des simulations extrêmement avancées sur support logiciel, hein, encore une fois, mais qui n'auraient pas de but en eux-mêmes. Alors, je vais confier là ici un petit quelque chose, c'est que quand j'ai commencé mon doctorat dans les années 2000, et les réseaux de neurones étaient c'était pas encore aussi utilisé qu'aujourd'hui, j'avais ce fantasme de dire je vais lancer une simu sur ma machine, sur mon labo, voilà. Et je vais lancer mon réseau de neurones, et c'était génial, quoi. Et le lendemain, quand je vais arriver, mon ordi va me parler, quoi.
Ouais.
Tu vois, avec cette singularité qui émergerait de ces simulations de neurones qui, voilà. Bon, alors, première chose, que c'est pas arrivé. Ouais. Non, c'est pas arrivé.
C'était pas un super scoop. Hein.
C'est peut-être en train d'arriver chez Sam Altman. Faudra qu'il nous le dise le jour où ça arrive, mais c'est pas le cas. Alors. Donc tout ça, je vais venir un petit peu dans les courants là qui se disputent sur ces questions-là, et la vision Sam Altman, la vision Yann LeCun, et moi je serais plutôt, je pencherais pour la vision de Yann LeCun, parce que je pense aussi que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées un peu avant, sur comment fonctionnent ces modèles de langage et ces chatbots basés dessus, c'est pas des modèles qui piochent les mots l'un après l'autre, qui vont être capables d'arriver à l'intelligence générale. Mmh. Encore une fois, parce que nous-mêmes, humains, on fonctionne pas comme ça. Partant de ce simple principe, si la base technologique, algorithmique, c'est ça, on n'y arrivera pas. On pourra peut-être y arriver en allant vers d'autres choses, en faisant de la peut-être la multimodalité, si on commence à mélanger le texte, la voix, si on commence à mélanger plein de choses, on va peut-être aller vers quelque chose qui donne l'illusion.
C'est un peu ce qu'on voit sur les annonces de...
Voilà, Foro, par exemple. Ouais. Toutes les vidéos de Foro sont super impressionnantes. Ouais. Donc, pour les auditeurs, c'est ChatGPT Foro. C'est la dernière version au moment où on enregistre, qui n'est pas encore accessible au grand public.
La version voix. Elle est accessible en texte, mais
donc
pas sur la version
voix. C'est extrêmement impressionnant, mais c'est encore une fois une avancée technologique, mais ce n'est pas une avancée vers l'intelligence générale qu'on nous promet depuis longtemps. Pour autant, est-ce que c'est complètement hors de portée? Est-ce que ça n'arrivera jamais? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que si ça arrive, ça ne sera pas sur ces fondations technologiques-là, ça sera sur autre chose. Et Yann LeCun en parle très bien, dit, et je le rejoins là-dessus, que pour qu'une intelligence parvienne, sans nous dépasser déjà, parvienne au niveau d'un enfant d'un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas, ce qui fait que nous, la façon dont nous humains fonctionnons, nous sommes ancrés dans le monde, dans un monde physique qui est extrêmement dense en informations. Il faut voir que à chaque seconde, nos yeux, nos oreilles donc perçoivent un flot. Si on devait le mettre une taille dessus, ce serait des gigas de données. Et un enfant est parfaitement capable de digérer ça, ce flot de données là, et ça va influencer les neurones de son cerveau, ses zones perceptives, ses zones motrices, etc. Et on sait que les degrés de développement de l'intelligence humaine suivent les degrés de développement moteur. Ça aussi. Donc, tout est lié dans notre cerveau. Et aujourd'hui, en essayant d'en isoler une partie, qui est le langage, on fait fausse route. C'est-à-dire qu'un modèle de langage, quel qu'il soit, ne pourra pas avoir cet ancrage dans la physique tant qu'on va pas chercher du côté de la physique.
Et quand on voit Tesla avec leur robot, et toutes les boîtes commencent à faire de la robotique, notamment avec des robots humanoïdes. Mmh. Est-ce qu'ils vont dans ce sens-là? Est-ce que justement un gars comme Elon Musk est en train a compris ça est en train de travailler sur ces sujets, que ce soit chez Tesla avec
alors je sais pas s'il a compris, je sais pas s'il a compris ça, je sais pas si
est-ce que ces boîtes là est-ce que c'est ça qu'elles sont en train d'essayer de faire.
Ben en tout cas les boîtes qui font de la robotique sont obligées de s'ancrer dans la physique, voilà, parce que le robot, pour qu'il puisse marcher, monter un escalier sans se casser la gueule, arriver à déambuler dans des espaces un petit peu escarpés et difficiles, sont obligés de justement d'être dans cette densité d'informations qui est le temps réel sur des capteurs, des actionneurs, etc. Et c'est pas du tout la même densité d'information que les modèles de langage qui sont token par token.
Donc finalement, Terminator avait raison, ce sera des robots.
Eh bien, peut-être qu'on commencera par les robots. Mais en tout cas, avant d'avoir des robots conscients, on revient, encore une fois.
C'est ça.
C'est pas pour demain. Et voilà, bon, je voulais un petit peu débunker cette idée-là. L'intelligence générale, elle n'est pas là et elle ne sera pas là.
On va avoir des simulateurs, c'est-à-dire il est très probable qu'un GPT-5 ou que des modèles comme ça soient extrêmement performants pour simuler la réalité à un point qui rend les choses vraiment bluffantes.
Ouais.
Mais par contre, leur attribuer une conscience va être compliqué. Le risque, et c'est d'ailleurs aujourd'hui un travail qui est fait, notamment sur les derniers papiers sortis par OpenAI sur la version audio justement qu'ils ont présenté et qu'ils n'ont pas encore sorti, le risque c'est un problème psychologique de certaines personnes qui pourraient s'attacher au modèle parce que ils vont être tellement bluffés par les choses qu'ils vont y prêter vraiment des sentiments humains.
On a vu Heure, le film.
Et ben c'est un peu le risque sur lequel ils sont en train de, en tout cas OpenAI a publié un papier sur le sujet en disant on s'inquiète de ce sujet-là et donc on est en train de travailler là-dessus.
C'est un peu pour faire du buzz.
Comme beaucoup de choses sur les annonces d'OpenAI.
C'est très très buzz. Je trouve que c'est malin de dire oh là là, écoutez, on est en train de faire un truc, c'est tellement bon que nous-mêmes on en a peur. T'imagines comme c'est bon, Marc. T'as le marketeur que tu es, ça, là tu dois je dis, oh, c'est génial. On n'a pas attendu ces modèles là et donc leur version vocale pour grossir les risques d'une technologie donnée, que les gens s'énamourachent, tu vois, d'un agent qui parle. Tu peux avoir la même chose avec des choses très différentes il y a très longtemps. Bon, donc je vois pas quelque chose de non plus de très nouveau là. Et pour revenir à la question de cette conscience là, on va peut-être avoir des consciences. Pourquoi essayer de donner à ces machines une conscience? Pourquoi faire? Parce que c'est la question. Parce que, par exemple, comme disait un chercheur qui travaillait dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, qui s'appelait Bernard Amy, qui était vraiment très très bon, il m'avait dit un jour, mais il avait écrit dans un article, les avions n'ont pas d'ailes et pourtant ils volent. Donc, si la fonction que doit remplir l'outil, c'est de voler, on n'a pas besoin de lui faire battre des ailes comme font les oiseaux. De la même manière, a-t-on besoin de donner une conscience à des machines pour remplir des tâches qui nous aident, nous, humains, comme par exemple répondre à des questions sur « Ah, comment je fais pour faire ça ?» etc. Aujourd'hui, ces modèles de langage le font très bon, très bien. Ben non, il n'y a pas besoin. Donc,
c'est une question philosophique. Voilà. Pour l'être humain, c'est la tentation d'être Dieu, d'être le créateur.
Oui, et là, on est peut-être encore une fois sur le domaine du fantasme et tu vois, créer la bête Frankenstein ou je ne sais quoi. Mais si on veut créer des outils qui sont efficaces pour nous aider au quotidien, a-t-on besoin de leur donner une conscience? Moi, j'ai pas envie que mon marteau ait des états d'âme et me dise, écoute, je le sens pas aujourd'hui.
Ce clou, je le trouve plutôt sympa. Vraiment,
Mais pareil, le frigo, tu vois, ou le grille-pain. On verra.
On revient à ce qu'il y a. Voilà. Bon, on va remettre les pieds sur terre et histoire de se faire une troisième partie et d'être un peu plus pragmatique, parce que ceux qui écoutent ce podcast, c'est potentiellement des chefs d'entreprise, des managers. Des gens qui ont entendu parler de la Gen AI, qui doivent ou veulent l'intégrer dans l'entreprise, savent pas trop par quelle bout le prendre, parce que c'est un gros morceau, ont peur que ça ait un impact sur leurs équipes, ont peur que ça déstabilise, mais en même temps se disent qu'ils sont obligés d'y passer. Donc, d'après toi, quelle serait la bonne façon d'intégrer ces outils dans une entreprise? Aujourd'hui, moi, je fais quand même deux aspects. Il y a d'un côté la verticale métier, c'est-à-dire comment j'intègre de la Gen AI dans un service marketing, dans un service com, dans un service achat, etc., où on va plutôt former les gens sur des outils existants pour leur apprendre à les utiliser et à accélérer certaines choses dans leur travail, faire un plan pour une présentation, résumer des notes, ce qu'on voit apparaître d'ailleurs dans tous les outils type Teams qui permettent de synthétiser des réunions. Mmh. Et ensuite, on a une version plus transverse qui fait intervenir l'IT et potentiellement des data scientists pour dire comment est-ce qu'on va utiliser de, et là, c'est pas que de la Gen AI, mais de l'IA de façon générale, pour dire, en fait, on a des données au niveau de l'entreprise. Donc là, il y a un vrai travail à faire pour, au niveau de la donnée dans l'entreprise, pour venir l'agréger, la structurer, et derrière se dire, cette donnée, comment est-ce qu'on peut arriver à travailler autour de ça pour produire de la valeur? Ça, déjà, moi, c'est ma vision, mais est-ce que toi, d'un point de vue data science, t'as aussi d'autres conseils à donner sur ce sujet?
Je suis un petit peu biaisé sur cette question, parce que, étant donné que j'occupe une position de management et mon rôle, justement, à Massive est de travailler sur ces questions-là. Bon, je vais essayer de rester un petit peu agnostique là et de dire, qu'est-ce que je pourrais dire à un dirigeant, à un manager aujourd'hui qui est tenté d'utiliser de la Gen AI dans son entreprise? Donc la première chose que je lui dirais, c'est mais pourquoi faire? Parce que si la seule raison c'est de se dire oh ça a l'air cool ou tu sais je sais pas comment on pourrait traduire le FOMO, le fear of missing out, c'est tout le monde en parle, donc il faut que je le fasse aussi parce que sinon je vais passer pour un ringard.
En fait, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris le pli sur la transfo digitale, sur la révolution Internet, et qui l'ont subi par la suite, et donc se disent aujourd'hui, je ne peux pas être en retard là-dessus parce que je ne peux pas me permettre une deuxième fois d'être en retard. C'est aussi ça.
Donc, je dirais vraiment, déjà, il faut pas faire les choses dans la précipitation et juste pour le principe, dire, ah tiens, je veux le faire parce que c'est cool. Même si ça donnerait du boulot à mes collègues data scientists par là qui sortent des écoles et qui seraient ravis de le faire, ne vous dites pas je vais embaucher des data scientists, une bonne équipe, parce que c'est très cher, hein, data scientist, je précise, et puis ensuite on verra. Il faut vraiment partir, faut essayer d'identifier quels sont les besoins de l'entreprise, qu'est-ce qui pourrait être couvert éventuellement par ces technos. Et là, pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir une armée de gens, il faut juste prendre les principaux acteurs dans les domaines, des domaines clés, et les mettre autour d'une table et faire réfléchir ensemble. Donc moi, on en a parlé l'autre jour, on disait mais c'est pas une approche top-bottom qu'il faut prendre en disant voilà, à partir de demain, vous utilisez l'outil pour faire ça et de toute façon, j'ai aucune idée de ce que vous faites, mais vous le faites comme ça. Ça marche pas. En revanche, amener les équipes à se saisir de ces outils-là, ça commence déjà par les dédiaboliser, par déhyper, par revenir sur Terre, un petit peu ce qu'on essaie de faire là, et je trouve que c'est super ce que tu fais. Donc, enlever la hype, enlever tous les mots et les idées reçues, les peurs irrationnelles, et s'approprier les outils tels qu'ils sont, avec leurs avantages, leurs inconvénients. Et à partir de là, en travaillant ensemble avec les équipes, ça émerge naturellement. Donc, quand les équipes
prototypées...
veut prendre le train, ce train-là, parce qu'on sait qu'il va apporter de la valeur, et on veut le faire ensemble. Et on arrive à la question de la valeur. Là, je pense que tu peux prendre ça là. C'est crucial toujours d'identifier les potentiels gains de valeur.
Valeur n'étant pas forcément financière, peut être une valeur en termes de humain, c'est-à-dire ça donne du sens au travail de certains.
Ça peut être la valeur gagner du temps sur les tâches répétitives.
La résilience de l'entreprise, ça peut être plein de choses.
Beaucoup de choses.
Donc... mettre les équipes au travail. Enfin, en tout cas, moi, mon credo, c'est plutôt de dire il faut faire travailler les personnes avec l'IA de manière à ce qu'on ne crée pas une scission encore plus forte vis-à-vis de la technologie qui pourrait être, pour le coup, dangereuse pour l'entreprise.
C'est ça.
OK. Écoute, on a bien parlé. Là, je vois le compteur qui fait 51 minutes. Donc, on a plutôt bien parlé. On va clore cet épisode. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut lire? Sur quel réseau tu es actif?
Moi, je suis relativement peu actif sur les réseaux, parce qu'en fait, je bosse. et là, tous ceux qui sont sur les réseaux, ils disent « Ouais, ben ça va, moi aussi, je bosse. » Désolé. Non, je suis principalement sur LinkedIn. On peut me retrouver David Renaudy sur LinkedIn, qui bosse à Massive en Suède. Il y en a pas beaucoup. Contactez-moi sur LinkedIn si vous avez des questions. Je serais ravi d'échanger autour de ces sujets qui me passionnent, pas que les jeux vidéo, donc l'IA en général, comme on l'a compris. Et avant, je tweetais un petit peu, mais bon, depuis que c'est devenu X, mais voilà, principalement LinkedIn.
Ok. Et le prochain jeu de Massive qui sort dans quelques jours.
Dans deux semaines. On sort Star Wars Outlaws, un jeu en monde ouvert dans l'univers de Star Wars sans sabre laser. Donc, je précise.
Sans sabre laser.
C'est un pari, mais on pense que ça a marché, on y croit et c'est cool. On est super, on est à fond là.
Ok. Bonne chance pour le lancement.
Merci JS.
Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné matière à réflexion. Avant de nous quitter, quelques petites demandes. Tout d'abord, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucun épisode. Ça nous aide beaucoup. Ensuite, si vous avez un moment, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est pareil, c'est un retour précieux qui permet d'améliorer constamment le contenu. Et enfin, venez échanger avec nous sur LinkedIn, partagez vos réflexions, proposez des idées de sujets d'invités que vous souhaiteriez voir invités sur le podcast. Ça nous aide vraiment à être visible, à vous apporter du contenu de qualité. Ce podcast est créé et produit par le collectif Tous Transforme, qui accompagne les entreprises sur les sujets de la transformation, que ce soit sur le business, marketing ou la tech. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut David.
Salut JS.